Merci Entre Loire et Loing, c'est l'heure du magazine du Gâtinais. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter sur ces deux ailes comme chaque samedi à 10h et merci de nous écouter de plus en plus nombreux, de nous regarder en vidéo sur Facebook, sur les réseaux. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est l'été. Le 21 juin, c'était la fête de la musique, c'était la fin du printemps et le début de l'été. Et l'été, c'est le temps du théâtre du côté de la pailleterie avec, comme chaque année, la nouvelle création du théâtre du Masque d'Or. C'est son metteur en scène qui nous en parle au micro de Sandrine Manteau.
La compagnie du Masque d'Or et particulièrement Fabrice Pierre ont une passion pour les bambouserets. Résultat, quand ils voient une belle bambouserie ici à la pailleterie, ils se disent « Mais tiens, c'est évident, pourquoi ne monterions-nous pas Macbeth de Shakespeare ?» C'est logique.
C'est tout à fait logique. Ça répond à ce que demande la pièce. Il y a un côté fantastique, il y a un côté monde un peu irréel, un peu surréaliste comme ça. Et cette bambouserie nous semblait tout à fait adaptée au monde des sorcières, puisqu'il y a des sorcières dans Macbeth. Donc, dans un monde un peu magique, et la bambouserie, qui est une sorte de forêt primaire, un peu comme ça, peut représenter ce monde onirique, tout à fait, ouais.
Alors donc c'est encore une fois, eh bien la troupe nous propose de venir ici en pleine forêt. Ils sont toujours aussi émerveillés par ce lieu que constitue la pailleterie et par ses innombrables possibilités pour leur création.
Tout à fait. Pendant Platonov l'année dernière, on a visité d'autres endroits du site hein, et on a découvert donc cette bambouserie. Hein, et c'est vrai qu'elle nous a tout de suite intéressés. Le public ne connaît pas du tout cet endroit. Personne ne connaît cet endroit qui est un peu reculé. Donc on a beaucoup réfléchi au départ à qu'est-ce qu'on pourrait monter dans une bambouserie. On a toujours ce même défi chaque année de soit avoir envie de monter une pièce et puis de chercher un lieu qui s'y adapterait, soit l'inverse, c'est-à-dire que le lieu nous fascine et quelle pièce pourrait épouser cet endroit. Donc on a beaucoup réfléchi. Et puis Shakespeare est venu assez vite parce que l'extérieur a une dimension épique. Donc, ces auteurs se relisent naturellement quand on fait de l'extérieur. Et puis, coup de foudre pour Macbeth. Parce qu'effectivement, il y a ce monde des sorcières qui peut se passer dans cette bambouserie. Et puis, il y a toute une autre partie qui se passe dans son château avec un scénario incroyable. Hein. C'est un polar magnifiquement écrit par Shakespeare. Et de nombreux cinéastes se sont emparés de cette œuvre. Et c'est Orson Welles, Polanski, etc. Et c'est tout à fait normal parce qu'elle est écrite comme un polar, il y a du suspense, il y a des meurtres et des trahisons. Les scènes sont très courtes, très denses, avec énormément d'informations.
Il y a des côtés gore aussi des fois.
Il y a des côtés gore aussi, alors ça c'est Shakespeare qui est génial pour ça, c'est-à-dire qu'il propose un théâtre total. À la fois il y a du fantastique, à la fois il y a de la tragédie, mais il y a aussi de la comédie. Et puis il y a évidemment l'épique de la guerre autour de cette histoire de Macbeth. Donc c'est un théâtre total, on a plein de sensations, on peut rire à plein de moments. On peut être effrayé à plein de moments, on peut être dans un monde magique à plein d'autres moments, voir la guerre à plein d'autres moments. Donc, il propose un théâtre total et nous, on fait feu de tout bois pour répondre à ce théâtre total. Voilà.
Alors quand même, il y a un truc, Fabrice, Michel Pierre va jouer dans cette pièce, toi ouais. Tu ne joues pas dedans. Mais il disait tout à l'heure en aparté, Michel Pierre, que vous avez quand même le culot de faire rire avec cette pièce et que ça n'a pas souvent été mis en scène. Avec une dose d'humour, la dose d'humour que vous proposez.
Ah, c'est-à-dire que c'est une tragédie qui est très noire aussi,
qui est très,
hein, donc, qui est très tragique, absolument. Hein, ça fait partie des œuvres, d'abord, une des plus courtes tragédies de Shakespeare, la plus courte. Et donc, tout est très concentré vers le destin tragique de ces deux personnages, hein, Macbeth et Lady Macbeth. Et, nous, on a voulu profiter d'une certaine... inspiration qu'on a de Shakespeare en général, qui s'est toujours mélangé le noir et puis le clair, si je puis dire. Et souvent dans les tragédies comme Hamlet ou Le Roi Lear, il y a toujours des petits personnages, en général un duo, qui vient alléger la sauce de la tragédie pour respirer un bon coup, rire et puis repartir dans du d'autant plus noir. Donc on s'est inspiré de l'ensemble des œuvres de Shakespeare pour créer cette petite distance qui permet de toujours avoir l'œil un pied dedans, un pied dehors. Je sais que c'est du théâtre, je sais que ce n'est pas complètement vrai. Donc le traitement des meurtres aussi, on y a réfléchi pour créer cette petite distance, s'éloigner du réalisme. de la noirceur et des meurtres, etc. On peut les traiter au théâtre de manière distanciée et éventuellement avec humour. Donc ça répond à ce théâtre total, encore une fois.
De toute façon, donc, comme tu dis, en t'éloignant du réalisme, de la tragédie, tu te rapproches complètement du théâtre de Shakespeare, puisque c'est un théâtre de tréteaux. C'est un théâtre d'extérieur, ouais, comme vous le faites aujourd'hui.
Avec parfois aussi des petits clowns qui étaient là au Théâtre du Globe pour rattraper le public en faisant des apartés au public pour lui dire hey, venez réécouter ce que disent les grands, c'est intéressant. Et en même temps, il y a une petite blague pour faire ah, lui, il est intéressant. Et ça permet de reconcentrer le public hein, qui vendait ses tomates en même temps qu'il regardait le spectacle. Hein, c'était un peu la foire. Donc nous utilisons ça aussi, bien sûr.
Alors, dans ma main depuis tout à l'heure, je tripote cette magnifique couronne. À la base, Macbeth, ça se passe au Moyen-Âge. Mais évidemment, il y a plein de metteurs en scène qui se sont amusés avec l'œuvre de Macbeth. Et puis, on peut faire confiance au Masque d'Or pour nous surprendre également par la mise en scène. On va pas en dire trop, mais explique-nous quand même.
Dire que, ouais, enfin, par rapport à cette couronne, c'est le fait qu'elle a un côté archaïque et très moyenâgeux, qui répond à la période de Macbeth, qui se passe normalement en 1030. Et puis, en même temps, ça n'empêche pas d'amener des signes contemporains pour justement créer ce décalage entre le Moyen-Âge, mais en même temps, moi, je suis un homme contemporain, j'ai envie de parler de nous aujourd'hui à travers les thématiques de Shakespeare, et donc, les signes doivent me ressembler aussi, donc il peut y avoir une couronne, mais il peut y avoir aussi peut-être une cravate ou un jean, ou hein, la liberté de faire du théâtre mélangé et surprenant et moderne, finalement, quoi.
Mais tu dis le propos de Shakespeare, pour moi, cette pièce, Macbeth, c'est quand même c'est les méchants, les gentils. Est-ce que ça correspond à notre monde ?
C'est pas aussi simple que ça, parce que là, c'est la magnifique écriture de Shakespeare. Malgré tout ce que fait Macbeth et toutes les horreurs qu'il commet, tous les meurtres qu'il commet, il a l'art de créer avec le public une sorte d'intimité avec ce personnage qui parle souvent de lui et de ses tiraillements à l'intérieur des monologues qu'il a. Et là aussi, en s'adressant au public, donc il y a une espèce de cohésion entre le public et le personnage de Macbeth qui fait que je ne peux pas m'empêcher de le trouver sympathique. Et c'est ça le pire, c'est que ce terrible méchant m'est sympathique. Et là, ça crée du tiraillement aussi pour le spectateur.
C'est le propre de la tragédie de ne pas pouvoir échapper à son destin, le destin que lui promettent les sorcières.
Exactement. Alors, on est dans cette thématique, ça fait partie des thématiques aussi. Peut-on échapper à son destin ? Peut-on écrire soi-même son destin ? Toutes ces thématiques sont développées aussi par Shakespeare, parce que les sorcières lui annoncent qu'il sera roi. Il pourrait attendre que le roi meure pour être roi. Non, ça crée chez lui ce désir de l'être tout de suite et donc d'aller le tuer. Et il s'avère qu'il vient dans son château et c'est la bonne occasion, etc., etc.
Est-ce que Lady Macbeth, t'es aussi sympathique ? Je pense pas.
Elle est aussi vachement humaine, mais si, parce que c'est aussi quelqu'un qui doute, qui est inquiet. Elle a peur de la chouette qui passe au moment où son mari est en train de faire le meurtre. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas habitué à tuer. Et on repart de cette chose-là au départ pour le jeu de Lady Macbeth, c'est-à-dire qu'elle-même, c'est la première fois qu'elle tue. Donc, elle n'est pas assurée, ce n'est pas un serial killer machiavélique qui est sûr de son projet. C'est quelqu'un de sensible, d'inquiet, de fragile, hein, et qui met son destin en péril et elle en deviendra folle. Ça veut bien dire qu'elle y a quelque chose qui la traverse et qu'elle n'est pas seulement un robot. Folle, ouais. Exactement. Donc, c'est aussi quelqu'un de très humain. Les personnages tragiques sont des gens très humains. Ils ont juste une espèce de dimension de demi-dieu, un peu comme ça, dans leur présence, dans leur profondeur. Mais ce sont avant tout des humains.
Est-ce qu'il y a une résonance avec la crise politique qu'on traverse ?
Oui, je crois. Non, mais c'est évident, c'est évident. Hein, la soif du pouvoir, tous les moyens possibles pour y parvenir, et puis ensuite abuser de ce pouvoir, et puis les résonances en France, les résonances en Europe et du côté de l'Est notamment sont hyper présentes. Quand on voit la pièce, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, effectivement.
Le Masque d'Or avait déjà joué Shakespeare ?
Ouais, alors c'était deux fois, et c'était une fois aux Tanneries, pour le Conte d'Hiver, Et oui. Puis, c'était aussi ici, à la pailleterie devant le château. C'était le songe d'une nuit d'été, voilà. Donc, c'est la troisième représentation de Shakespeare pour le Masque d'Or.
Bon, c'est super. Ouais. C'est du 30 juin au 30 juillet. Ça fait qu'il y a un mois. Et donc, il y a Michel Pierre qui dit, Sandrine Manteau, je ne vois pas comment tu ne vas pas pouvoir venir. Alors, le mieux même, je vais vous dire, pour le Masque d'Or, parce que je l'ai déjà vécu, c'est de venir une ou deux fois de suite, voire trois fois, pour voir l'évolution des choses. C'est génial. Et puis, alors, comme en plus, on est en extérieur, peut-être qu'un jour, il y aura une très, 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 très belle nuit avec plein d'étoiles profondes et ça sera encore plus beau.
Et puis, on a un des plus grands plateaux de théâtre du monde. Hein. On a une profondeur, on est dans la nature, on a 100 mètres de profondeur, on a 100 mètres de largeur. On est dans un lieu qui n'existe pas, qui est d'une dimension épique extraordinaire et magnifique.
Le Masque d'Or ou le luxe du rêve. C'est vrai ? Ça te va,
ça ? C'est joli, ça, c'est très beau. Ouais, je suis d'accord.
Merci. Merci,
merci à toi, Sandrine. If your ashes turn to ashes in the blinking of an eye, if you're trying to keep the habit, if you're trying to survive, oh, let love be with you.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin, merci de nous écouter sur ces deux ailes. 100 ans, 100 ans, c'est le temps que dure l'amitié entre la Chine et Montargis. Et c'est une association qui gère tout ça, l'association Amitié Chine-Montargis, et qui fête tout ça et qui vous invite à fêter ce siècle d'amitié. Ça se passe du côté de la salle des fêtes de Montargis, ça sera le 2 juillet. On écoute tout ça au micro de Sandrine Manteau.
Le saviez-vous, je viens d'apprendre que Montargis a en fait 100 ans d'histoire, un siècle d'histoire partagée avec la Chine. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons ici, au musée de la Chine, en plein cœur de Montargis, en compagnie de Pei Wen, qui est la présidente de l'association...
Amitié Chine-Montargis.
Amitié Chine-Montargis, et Sébastien, un de ses plus jeunes membres, qui est le trésorier. Voilà. Alors, moi je dis musée de la Chine, c'est pas ça.
Non.
C'est
musée historique de l'amitié franco-chinoise.
Alors voilà, alors c'est une toute petite devanture, mais en fait c'est un musée très profond, extrêmement riche, c'est sur 3 étages en fait, qui est vraiment... très, très soigné, très, très léché. Il date de quand, ce musée, Pei Wen ?
Depuis 6 ans. En 2016, mois d'avril, enfin, c'est mois d'août, inauguration, ici.
Et comment est-ce qu'il a été élaboré ?
Ben, au départ, c'est acheté par la province du Hunan, d'ailleurs, justement. Et puis, après, on a collectionné tous les documents. Et puis, c'est la province qui a fait beaucoup comme investissement pour réaliser... Et puis, Montagois, sont participés aussi. Nous, l'association Amitié franco-chinoise, qui a beaucoup investi avec nos volontés, volontaires.
Est-ce que vous attendiez ce musée depuis longtemps ? Donc, est-ce qu'en amont, il y avait déjà quantité de documents qui avaient été mis de côté ?
En fait, l'association créée, c'est la raison pour laquelle, au départ, c'est pour garder cette histoire, pour éviter cette histoire oubliée. Donc, on commence par faire exposition pour faire connaître cette histoire. Ensuite, après, on fait le circuit, comme vous avez déjà vu, le circuit du Chinois à Montargis. Différents endroits comme l'école ou usine, ou ici, c'est l'ancien dortoir des Chinois qui a travaillé étudié ici. Et ensuite, après, on a fait venir des descendants, des gens qui viennent, et finalement, des gens, tout le monde a dit, oui, il faut avoir un musée. Alors, c'est notre but pour faire le musée.
Pei Wen, donc, ce que vous me dites, c'est que cet endroit n'est pas un endroit arbitraire, c'est un endroit historique. Vous connaissez cette histoire par cœur. Je vais me tourner vers Sébastien pour voir s'il la connaît bien. Alors, l'histoire des Chinois à Montargis, c'est quoi ?
Alors, l'histoire des Chinois à Montargis, en fait, c'est Li Qizhen qui arrive en 1902. Et il n'a pas envie de rester sur Paris. Et donc, il vient à Montargis pour étudier le monde agricole. Beaucoup de Chinois sont venus en France, en Europe, pour s'inspirer du fonctionnement et pour pouvoir le rapporter chez eux. Voilà, c'est ça la base de l'histoire de ces Chinois qui ont voyagé dans le monde entier et puis repartir et rapporter cette connaissance dans leur pays pour pouvoir faire évoluer la Chine différemment.
Et ensuite, ça se passe plutôt du côté ouvrier.
Oui. Alors, l'idée, c'est encore Li Qizhen qui la lance, puisque... Il va finalement retourner à la Garenne-Colombe. Donc, je vous passe les étapes pour vous inviter à venir découvrir ce qu'il a fait à Montargis, où il l'a fait, pourquoi et comment. Mais il va aller à la Garenne-Colombe, ouvrir une usine de soja, et il va inviter des compatriotes chinois à venir. Et c'est dans cet esprit qu'il lance le mouvement travail-études, enfin, que l'on appellera plus tard mouvement travail-études, puisqu'il va permettre à ses compatriotes de travailler et en échange, il va leur offrir un enseignement. Voilà.
Pei Wen, vous êtes d'accord avec ça ? Alors on continue. Ça, c'était donc les années 1900. Comment ça va se passer après ?
1920. Et après, ce sont des étudiants chinois qui étaient venus. Et il y a une partie, à l'époque, c'est l'école des garçons et l'école des filles. L'école des garçons qui est actuellement, c'est la mairie, hein, mairie de Montargis. Et l'école des filles, c'est l'école de Chinchon actuellement. Et la directrice de l'école de Chinchon, c'est la mère de René Dumont. Donc René Dumont avec Madame Dumont qui est logée dans l'école. Et c'est là qu'ils ont aussi un échange avec les Chinoises, parce que c'est l'école de filles. Et traverser, acheter du riz, chercher du riz. Et René Dumont qui a eu un visage pour envisager de faire comme agronome. Donc évidemment, il est issu de la famille dans l'agriculture, tout ça. Et finalement, quelques années après, des Chinoises sont retournées en Chine. 1947-48, il y a retourné encore une autre femme chinoise qui était issue d'ici, retrouvée avec René Dumont, en disant que, tiens, que vous faites agronome, mais il faut aller en Chine pour voir la campagne de la Chine. Donc du coup, René Dumont, qui est allé en Chine cette fois, a écrit 4 grands ouvrages sur la Chine actuellement.
Alors, Péwen, je vous arrête parce que vous parlez beaucoup de René Dumont. On va en parler de René Dumont parce qu'il est au cœur. On n'est pas là par hasard, on pourrait venir n'importe quand. Mais en l'occurrence, il y a vraiment une date qui est importante. C'est samedi 2 juillet, donc c'est demain, hein, pour ainsi dire. Samedi 2 juillet, il y a une grande journée de rencontres d'amitié franco-chinoise qui se passera à la salle des fêtes de Montargis. Et au cœur du programme, qui est un programme festif avec de la musique, avec des conférences, etc., on va parler justement de René Dumont, cet agronome écologiste qui était ami des Chinois. C'est bien ça. Néanmoins, excuse-moi, mais il y a quand même des grands noms chinois qui sont venus à Montargis.
Oui.
Je vais y arriver. Et je vais les avoir.
Et notamment Deng Xiaoping, qui est arrivé à Montargis, a travaillé à Hutchinson. Voilà. Et puis, il aimait se promener en Montargis en vélo, manger le croissant frais. C'est toute une histoire, c'est toute une salle à découvrir ici dans ce musée. Voilà.
Voilà, c'est ça. Découvrons ce musée qui paraît tout petit d'extérieur, qui est absolument parfait, qui est d'un design quand même très très beau, très belle muséographie, avec de nombreuses salles sur 3 étages différents, et avec des objets anciens, c'est vraiment très beau, bravo, c'est très beau. Maintenant, on va peut-être arriver donc à notre rencontre franco-chinoise qui va se passer à la salle de Montargis. Alors, ça existe depuis combien de temps, ces rencontres ? C'est nouveau ou est-ce que vous faites ça tous les ans ?
Ah, ça, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on l'a fait. Parce que 100 ans d'anniversaire, parce que l'année dernière, c'était 100 ans création, si on peut dire, création Parti communiste chinois, issu d'ici, parce que, en fait, le nom de Parti communiste chinois, il était ici, dans le jardin d'Urzy, la Réunion. Et ensuite, cette année, comme c'est 100 ans de jeunesse, donc du coup, à ce moment, on fait le deux éditions avec. Mais cette année, surtout, on est basé sur la Chine verte. Comme issu avec le René Dumont qu'on a parlé, et puis aussi la Chine, il y a beaucoup de Chinois. Enfin, en fait, il y a beaucoup de Chinoises et Chinois qui étaient venus, enfin, qui étaient venus à Montargis, retournent en Chine, créent Chine Nouvelle. Donc, Chine Nouvelle. Maintenant, on va regarder comme des jeunes Chinois de Chine Nouvelle, quelle est la réaction par rapport à la Chine verte, parce que c'est le futur pour le monde.
Alors là, ça m'intrigue, parce que pour moi, la Chine, c'est pas vert. Hein. Mais je me trompe ? Dis-moi, Sébastien.
Alors, oui et non. On dit que la Chine, c'est le plus gros pollueur du monde. Mais il faut savoir aussi que si la Chine bouge, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est 1 milliard de personnes qu'elle emporte avec elle. Et donc, c'est des conséquences qui vont être décuplées. Et c'est ce que nous explique Nathalie Bastianelli, qui sera présente pour animer une conférence. Elle nous explique ce que fait le gouvernement chinois, ce que font des Chinois chacun dans leur fonction particulière pour améliorer la biodiversité, pour améliorer le développement durable. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi des choses que nous, on peut appliquer ici et c'est aussi des choses qui s'appliquent déjà au travers d'associations montargoises qui font de l'écologie une thématique dans leur développement.
Alors, Nathalie Bastianelli, elle travaille là-bas, c'est ça ?
Non.
Elle développe des choses là-bas ? Oh, j'ai cru lire ça, hein, je te dis. Elle est une entrepreneure sociale et conférencière, créatrice d'un pont culturel mondial sur la thématique du développement durable. Et elle a, il y a deux filiales. Voilà, elle a créé en Chine le forum We Belong to Change, dédié aux innovations durables et une consommation consciente.
L'objet de ce forum, c'est de permettre à des Chinois et des personnalités du monde entier de se rencontrer autour d'une thématique, le développement durable. Voilà. Donc c'est un pont, c'est un peu comme le symbole de l'association, un pont entre deux cultures. Et bien c'est ce que fait Nathalie Bastianelli et c'est ce qui nous a beaucoup plu avec Peiwen. Et c'est pour ça que nous avons souhaité monter ce projet, enfin ces rencontres d'amitié franco-chinoise autour de ce thème et autour d'une conférence animée par Nathalie Bastianelli.
Alors évidemment, pour digérer un petit peu les conférences, il y a aussi il y a de la musique.
Oui, parce qu'en fait on aura presque 200 Chinois qui vont venir à partir de 4 ans jusqu'à 13 ans. Il y a des adultes aussi.
Donc, ils viennent d'où ?
Ils viennent il y a de Paris, il y a de partout, hein, dans la province de France, en fait. Parce qu'en fait, actuellement, il n'y a pas des Chinois qui sortent de Chine. Hein, c'est avec Covid, tout ça. Donc, actuellement, c'est des Chinois qui travaillent à Paris ou des étudiants, tout ça. Donc, il y a l'école Lan, c'est l'école Chiu Lan, quelqu'un qui est directrice de... Ben, elle a fait son école, elle a eu un diplôme de chorégraphe, enfin, prof de chorégraphique et traditionnelle, contemporain, avec tous ses élèves qui ont venu ici. Et puis aussi, il y a des chorales, un choral chinois qui vient. Et puis aussi, le costume traditionnel chinois est ouvert. Il y a plein de jeunes et puis de certains âges aussi, avec toute l'Europe chinoise qui va se balader à centre de Montagy et va montrer comme quel est le costume traditionnel. Et puis en même temps aussi on a des musiques traditionnelles et aussi comme cérémonie de thé et calligraphie, tout ça, démonstration.
Voilà, et puis il y a également le jeune guitariste André Nobilet qui est là, qui est un virtuose de la guitare classique. Et puis face à lui, il y a également donc un musicien jeune aussi, qui lui est chinois, c'est ça ?
Li Xihong. Lui, c'est quelqu'un qui travaille à UNESCO. Il est très cultivé, il joue la musique traditionnelle chinoise, c'est assez rare. Donc il vient pour présenter, partager.
Ils vont dialoguer ensemble, c'est ça ?
Oui. Les deux jouer ensemble et en même temps on va des démonstrations avec des spectateurs et puis visiteurs qui viennent et partager ensemble.
Sébastien, c'est gratuit ?
Et oui, l'entrée est libre et gratuite.
Tout a été organisé par l'association ?
Tout a été organisé par l'association, donc on a aussi des partenaires qui nous aident.
Tu veux lire les noms ? Non ? Oui, il y a pas mal de partenaires, c'est pas mal.
Il y a l'orvitourisme chinois, il y a aussi
il y a plein de choses en fait, ouais. On ne va pas tous les dire, ce n'est pas possible.
Le musée de vivant, c'est des gens qui vont nous offrir l'exposition sur Raymond...
René Dumont. Voilà. On a tout dit, donc c'est la salle des fêtes. C'est à la salle des fêtes, c'est le 1er, le 2. Oui, ça peut être un samedi. À la salle des fêtes, ça commence à 11h et puis ça finit après à
18h.
On peut manger ? Non ? Il n'y a pas des choses à manger, Peiwen ?
Actuellement, on a réservé que pour nous, les participants et les Chinois, mais on est en train de solliciter des restaurants chinois qui peuvent sur place pour manger des choses.
Ça serait pas mal.
Bon. J'espère.
Merci beaucoup. Et puis donc, venons-nous nombreux visiter ce très, très joli musée. Est-ce que c'est toi qui fais des visites quand Peiwen ne peut pas faire les visites ici ?
Alors, le musée accueille en permanence des étudiants et des étudiantes chinoises qui assurent pendant la... et français, qui assurent les visites guidées. Voilà. Et puis aussi, nous rendons disponibles.
Merci beaucoup.
Alors je suis dans... Les 1, 2 et 3 juillet, c'est la fête de l'Europe à Amilly. Invité à l'honneur cette année, la Catalogne. Un événement culturel et convivial de grande ampleur, avec des dizaines d'artistes, des centaines d'invités européens et des milliers de spectateurs. La Catalogne vous fera découvrir sa culture et sa gastronomie. Au programme de cette 16e édition, vous pourrez écouter le vendredi 21h30 Kéralt Laoz, suivi à 22h30 d'un concert bal dansant. Puis le samedi à partir de 17h30, venez écouter Ziaco. À 20h30, Els Amix Demanel. Puis à 22h30, Ithaca Band. Et dimanche à partir de 17h30, le duo Celtic, Grumpy O'Ship. Puis à 21h15, Every Night. Et pour clôturer ces 3 jours de fête, un feu d'artifice sera tiré place des Terres Blanches. Animation, exposition, village européen, feu d'artifice et bien d'autres animations à la Fête de l'Europe les 1, 2 et 3 juillet à Amilly. Plus d'infos sur le www.amilly.com.
C2L. Écoutez de la pop, du rock et des hits.
Et des hits.
C2L Radio.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur C2L et merci de nous regarder en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Commentez, likez, partagez, surtout abonnez-vous pour ne pas louper tous les reportages vidéo que nous faisons, parce que tout ne passe pas en radio. Il y a parfois des reportages qui sont diffusés exclusivement sur les réseaux, sur Facebook notamment, et puis inversement, il y a des reportages qui sont uniquement en audio. Donc voilà, c'est un tout, c'est une émission multimédia, multicanal, comme on dit, avec une partie radio et une partie réseau, une partie vidéo. La fête de l'Europe, ça ne vous a pas échappé, vous avez peut-être vu la communication. Ça faisait 2 ans qu'elle était absente de nos emplois du temps, mais ça y est, elle est de retour à Amilly, ça c'est le 1, 2 et 3 juillet, donc ça va venir vite. Si on en parlait un petit peu avec les protagonistes de l'histoire, c'est-à-dire Monsieur Dupaty, le maire européen viscéral, instigateur de la fête de l'Europe depuis 2005, hein, ça dure. Marie-Laure Carneza, adjointe aux relations européennes. Patrick Leclou, qui lui organise quelque chose de tout à fait particulier, un relais sportif avec plusieurs équipes qui parcourent plusieurs centaines et milliers de kilomètres qui reviennent d'Espagne. Ça va durer toute la semaine, on en reparlera. Et Enrique Coelho, chargé de l'organisation et de la programmation, surtout musicale et artistique, de cette fête de l'Europe. Tous ces gens-là, nous les avons rencontrés au micro de Sandrine Manteau, bien sûr.
Nous voici à Amilly dans cette magnifique maison Saint-Loup. Amilly, l'européenne. C'est ça que Gérard Dupaty, son maire, veut mettre en avant désormais à partir de 2022. Et suite, il faut dire, à avoir reçu un prix, on dit ça, exceptionnel.
Oui, prix prestigieux, oui. C'est le prix de l'Europe qui va nous être décerné officiellement, qui nous a été décerné en 2020. Mais pour cause Covid, il n'a pas pu nous être remis dans les temps impartis. Et donc, ce prix nous sera remis officiellement par des personnalités européennes, des parlementaires européens qui vont venir au nombre de 7 pendant plusieurs jours. Et ça nous sera remis le samedi 2 juillet vers midi. Nous aurons enfin la consécration européenne, ce que nous convoitons déjà depuis nombreuses années, puisque je crois que c'est le diplôme européen qui nous a été remis en 2005. Ensuite, nous avons eu, de la plaquette d'honneur, etc., un certain nombre de prix. Et nous avons candidaté pendant de longues années pour ce prix de l'Europe.
C'est un prix rare.
C'est un prix rare. On est la 11e ville en France depuis 1955 à obtenir ce prix. Voilà, donc c'est suite effectivement à beaucoup d'investissements, de par les services, de par la population, de par les associations. Tout le monde s'est investi, voilà, pour effectivement faire passer ce message européen qui enfin était reconnu effectivement par le Parlement européen, mais j'aimerais qu'il soit aussi reconnu par l'ensemble des Amillois et plus largement si possible.
Alors, Gérard Dupaty, vous disiez tout à l'heure, il faut vivre l'Europe.
Oui, la vivre et la faire vivre, d'ailleurs, avec nos échanges, c'est ce que nous nous employons à faire, que ce soit à travers les écoles, les groupes scolaires, le collège, les associations. On essaie d'initier bon nombre d'échanges tout au long de l'année. Nous avons d'ailleurs, par le passé, reçu l'Orchestre baroque européen des jeunes. Voilà, avant de faire leur tour d'Europe et même du monde, ils passaient donc une semaine par Amilly. Nous avons là des jeunes qui viennent en stage pendant une semaine pour construire un observatoire ornithologique pendant un mois. Ils arrivent d'ailleurs ce soir. Voilà, là aussi, c'est à travers tous ces échanges que nous construisons effectivement l'Europe à Amilly.
C'est ça. Et y a-t-il des échanges dans les familles parce que ça, c'est vieux, le côté échange dans les familles, mais ça s'est perdu. Est-ce qu'on peut à nouveau maintenant remettre ça en place?
Ben, c'est effectivement l'objectif que nous recherchons aussi. Alors ça se fait plus particulièrement lorsque nos amis allemands, espagnols, italiens viennent pour la fête de l'Europe en particulier, mais aussi pour des échanges plus ponctuels. Et là, ils sont hébergés dans les familles et il y a des contacts qui se sont noués spontanément. On n'intervient plus. Ce que je souhaite, c'est que la ville n'intervienne plus, mais que ces échanges existent, que ce soit des échanges spontanés. Voilà, et que chacun s'enrichisse de sa culture.
Est-ce qu'on pourrait imaginer encore de nouveaux échanges ?
Ben, toute l'imagination est à l'œuvre, et moi je ne souhaite que cela, et nous favorisons effectivement, et nous favorisons au maximum tous ceux qui souhaitent, ma foi, recevoir, partir, et découvrir aussi l'Europe, parce que là aussi, l'Europe est riche de cultures très différentes. C'est ce qui d'ailleurs nous motive avant tout par rapport aux États-Unis où il y a une culture assez uniformisée. Hein. Voilà, ici, l'Europe est infiniment variée, notamment sur le plan géographique, mais sur le plan culturel. Voilà, on a une chance que l'on ne mesure pas, nous autres, en Europe.
Alors dites-moi, pour l'instant, il y a trois drapeaux aux côtés de celui de l'Europe et puis d'une autre. Est-ce qu'il pourrait y en avoir davantage ?
Je pense que ce n'est pas forcément souhaitable. Ce qu'il faut, c'est surtout les faire vivre, ces échanges. Parce qu'on peut en avoir beaucoup, que ce soit très symbolique. Mais moi, je veux dépasser le symbole. Hein, il faut que ce soit matérialisé et justement que les Amillois s'emparent de cela et puissent déjà, c'est très riche, hein, trois villes jumelles. C'est déjà très, très lourd si on veut les animer, ces échanges. Donc, pour le moment, nous ne souhaitons pas. Par contre, on peut avoir des échanges ponctuels. C'est ce que nous faisons d'ailleurs chaque année avec un nouveau pays invité d'honneur.
Ah,
et on découvre à nouveau une nouvelle culture, enfin, un nouveau paysage. Et et aussi de nouveaux ambassadeurs.
Alors, je pensais au niveau scolaire. Ça se passe comment, ces échanges ? Comment c'est vécu ?
Alors, ça se passe très bien. D'ailleurs, depuis la maternelle, il y a des échanges, notamment avec l'école d'Ego. Ce sont des petits qui font des échanges avec l'Allemagne en particulier, puisque l'Allemagne, c'est notre jumelage historique, hein, puisque nous allons, au mois de septembre, fêter le 45e anniversaire. Là, nous allons souhaiter le 20e anniversaire de notre jumelage avec Villanova. Ce qui a motivé le choix de la Catalogne, hein, pour faire vivre cette région d'Espagne. J'ai oublié la question.
Ça passe aussi par la langue, évidemment, l'Europe. Est-ce qu'il y a un apprentissage des langues ici qui est favorisé par rapport à d'autres communes ?
Bien sûr, nous donnons des cours d'espagnol, d'italien, et puis là, on va proposer à la rentrée un cours d'allemand. Voilà, donc là aussi, on essaie. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que, bien sûr, les gens qui font d'italien essaient de solliciter ou de recevoir des Italiens pour leur séjour. Donc là aussi, ça stimule un petit peu la curiosité de chacun.
Merci Gérard. Merci.
C'est avec plaisir. Voilà, et venez très très nombreux les 1er, 2 et 3 juillet. Il y a beaucoup d'animations. c'est une fête très conviviale, hein, c'est fait pour ça. Et puis, il faut rappeler quand même que tout est gratuit. C'est un lourd investissement pour la ville d'Amilly, mais c'est un choix politique au sens noble du terme que nous avons fait.
Votre fête, elle a combien d'années maintenant ?
Elle date de 2005. Voilà, ça fait la 18e année. Voilà, avec 2 ans d'interruption, hélas, mais nous souhaitons bien poursuivre.
Et avec toujours plus poursuivre. De monde, je suppose.
Oui, voilà, je pense que là, on dépasse largement les frontières de notre agglomération. Cette fête est reconnue, et puis elle est porteuse de valeurs. Et je crois que ça peut aussi intéresser beaucoup de gens, bien au-delà de nos frontières.
Voilà, en fait, ce que vous dites, Gérard Dupaty, c'est peut-être que à l'heure actuelle, dans le contexte où l'on vit, ces valeurs européennes d'ouverture sur l'autre sont plus que jamais importantes.
Bien sûr. Je veux quand même rappeler que nous avons, nous, eu des échanges avec l'Ukraine depuis de longues dates. Et d'ailleurs, pendant un certain nombre d'années, pour la fête de l'Europe, nous recevions des amis ukrainiens de Vinnytsia. Et hélas, voilà, nous sommes complètement sous le... choqué de voir ce qui se passe actuellement. C'est contre tout ce qu'on pouvait imaginer, parce que pour nous, l'Ukraine était déjà dans l'Europe, et je vois pas, ça ne nous posait aucun problème. Bon, bien sûr, après, il y a des problèmes administratifs, etc., économiques, qui se posent. Mais déjà, les Ukrainiens étaient avec nous, ils faisaient la fête avec nous. Voilà, ce sont des Européens. Voilà, et donc, j'espère qu'on pourra les recevoir dans de meilleures conditions dans les années à venir. En tout cas, ils seront les bienvenus et c'est avec grand plaisir qu'on les recevra.
Marie-Laure Carnoza est maire adjointe à Amilly. Elle est déléguée aux relations européennes. Voilà, c'est ainsi qu'on nomme ce qu'on appelait auparavant le jumelage. Ici, à Amilly, évidemment, ces relations européennes ont une place très importante. Et Marie-Laure, expliquez-nous pourquoi.
Pourquoi déjà, nous avons 3 jumelages et 3 vrais jumelages, des jumelages qui vivent. Donc avec l'Allemagne Nordwall depuis 45 ans, puisqu'on fête l'anniversaire des 45 ans, le 45e anniversaire cette année. Avec Villanova del Camí en Espagne, nous fêtons les 20 ans de jumelage, donc on l'emploie encore un petit peu ce terme-là, cette année aussi. Et puis avec Calcinaia en Italie, un jumelage un petit peu plus récent, d'une dizaine d'années. Donc quand je dis que les jumelages vivent, c'est-à-dire que à Amilly, le jumelage, ce n'est pas seulement un nom de ville à l'entrée de la ville sur la pancarte. Ça va bien au-delà, ce sont des échanges sportifs, des échanges culturels au travers des fêtes annuelles. Et même si, avec ce qu'on vient de vivre, la pandémie, ma foi, les relations s'étaient un petit peu espacées, nous avons toujours garder le lien parce que nous avons fait des visioconférences. Et maintenant, les relations ont vraiment repris physiquement avec le sport, notamment avec Patrick Leclous qui est parti en Allemagne au mois d'octobre 2021, donc avec des sportifs pour une compétition sportive. Il est parti à Nordwald sur 2 ou 3 jours. Et au mois de mars, ce sont des Allemands qui sont venu pour la minuit-trail. Donc, on a vraiment repris physiquement les relations européennes avec l'Allemagne à partir d'octobre 2021. Et sinon, le mois dernier, une délégation amilloise est partie à la fête annuelle de Calcinaia en Italie. Et cette année-là, dans quelques jours, nous fêtons les 20 ans de jumelage avec Villanova del Camí. C'est d'ailleurs pour ça que nous mettons à l'honneur la Catalogne. Voilà.
Et alors, comment est-ce qu'on crée des liens? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, une ville crée ses relations avec une autre ville européenne?
Je ne vais pas vous refaire l'histoire des jumelages voulus par Schumann, mais l'idée, c'est quand même de créer l'Europe des hommes. Et nous, ce qui nous...
ce sont des opportunités...
on va dire. Alors cette ville, en fait, cette ville italienne, elle était. Alors, il y a eu un jumelage en 45 ans avec Nordwald. D'ailleurs, à l'époque, c'était souvent des jumelages avec l'Allemagne,
oui, bien sûr,
qui se mettaient en place. Villanova, c'était il y a 20 ans, donc. Mais Villanova est jumelée avec Calcinaia, donc nous avons connu Calcinaia, et voilà pourquoi maintenant nous sommes jumelés. Et d'ailleurs, le mois dernier à Calcinaia, il y avait Villanova à Milly. Et Calcinaia en Toscane. Donc.
Ce sont des villes qui sont équivalentes en population.
Voilà, oui, 12-13 000 habitants comme à Milly. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, ce que je trouve admirable dans ces jumelages qui vivent, c'est que les populations se sont rencontrées, les habitants se sont rencontrés, puisque au moment de la fête de l'Europe, les Amillois accueillent des Italiens, des Espagnols, des Allemands. Et au moment où nous nous déplaçons, il se passe la même chose. Ce qui fait que les gens se connaissent, s'apprécient, deviennent amis. Et en dehors de ce que peut organiser la ville, se rencontrent et maintiennent le lien. Et ça, c'est formidable.
Soy el mejor de los pecados y también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que tus ojos han hecho llorar. Que me perdonen los demonios porque yo no sé si Dios me acompaña, pero si es así, ella es mi abuela, ella es mi abuela. Tengo bien claro que bien que me ampara, aunque yo no la vea, siempre me acompaña y piso con ella. Yo sigo sus huellas, yo sigo sus huellas. No existe una estrella polar que me haga viajar como lo hizo ella, como lo hizo ella. Qué rico que fue encontrar la suerte en mi ayer, encontrar la bendición en mis ancestros, que yo lo sé bien. Me echaron la carta, me leyeron el bocito del café. Qué bueno que fue. La suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado, con 57 compitiendo un peso pesado, con el número marcado. Ahora está la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado, con 57 compitiendo un peso pesado. Traigo las mejores recetas, esta fiera no se puede quedar quieta. Tengo por costumbre cumplir meta, aquí se respeta, aquí se respeta. Traigo las mejores recetas, de esta fiera no se puede quedar quieta. Tengo por costumbre cumplir meta, aquí se respeta, aquí se respeta.
C2L Radio 89.3.
Patrick Leclou, il est maire délégué à Amilly, délégué au sport, à la jeunesse. À quoi d'autre, Patrick ?
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Voilà. Et Patrick, vous vous apprêtez à faire une aventure qui m'épate d'emblée.
Une aventure, oui, c'est un rallye. Après avoir rallié en 2017 la ville de Norwalde en Allemagne en 3 jours en courant, on a décidé de rallier notre deuxième ville jumelle qui est Calcinaia en Italie, qu'on a rallié en 2019 après un peu plus de 1000 km en 5 jours. On part ce soir pour Villanova del Camí en Catalogne, où on va revenir à partir de dimanche soir, où on va parcourir 1118 km en 5 jours, et on arrivera donc vendredi prochain, 1er juillet, pour l'ouverture de la Fête de l'Europe. Ce rallye, donc, démarrant de Villanova, on va passer bien sûr les Pyrénées et le col de la Cuerta, qui est à 1922 mètres. Après, on va poursuivre notre parcours. On va prendre le pic de Nord, à 1211 mètres, et bien sûr le Puy-Marie, le Pas de Pérol, qui est à 1589 mètres. Donc ça, ce sont les 3 ascensions que nous allons faire avant de finir par le long du canal et revenir sur Amilly.
Patrick, la délégation, c'est combien de personnes?
La délégation, c'est 34 personnes, c'est 17 Français. Il y aura aussi 6 Allemands qui arrivent ce soir avec qui nous allons partir. Il y aura aussi 5 Italiens et 4 Espagnols. Et donc, 3 jeunes filles, 3 femmes accompagneront, 3 féminines accompagneront aussi ce rallye.
Quel âge ?
Alors, on y a de tous les âges. Ça va de 27 ans jusqu'à notre médecin qui a un peu plus de 65 ans.
L'entraînement, la préparation physique quand on fait ce genre de choses, c'est quoi ? Ça me paraît énorme.
C'est garder une bonne condition physique, courir, faire du vélo, voilà, se garder en forme. Et puis, là, c'est surtout voilà, avoir la bonne humeur, savoir se surpasser aussi un peu, parce qu'on va courir nuit et jour. La nuit est réservée aux coureurs. On court du soir de 22h jusqu'à 7h du matin. Après, les vélos prennent un peu de relais, puis après les coureurs, et après encore les vélos. Comme ça, pendant 5 jours. On fait une journée de repos quand même à Homs, dans l'Auvergne, dans le Cantal. On fait une journée de repos de façon à quand même que le corps puisse récupérer un peu d'énergie.
Mais alors donc, c'est ça. Donc vous partez en car, c'est ça ?
Non, on part en camping-car. Il y aura donc 3 camping-cars français, un camping-car allemand, un camping-car espagnol et un camping-car italien et un véhicule de course. Donc là, c'est vraiment un projet très européen puisque c'est la première fois qu'on a la chance d'avoir les 3 villes jumelles avec nous pour faire ce rallye sportif et un peu en partie aussi culturel.
Patrick, c'est qui a eu l'idée de ce rallye il y a 3 ans ?
Alors en fait,
il y a plus de 3 ans du coup.
Ça s'est fait en 2016. J'ai emmené des jeunes à Norwalde pour participer aux 10 km de Norwalde. Et bien sûr, après une course, il y a toujours un moment de convivialité où on partage une bière, on discute. Et les Allemands avaient déjà réalisé ce projet en vélo de rallier les 2 villes. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire, mais plus vite que la poste. Alors ils ont dit, c'est quoi cette histoire? Moi j'ai dit, on va essayer de rallier Amilly à Norwalde, mais plus vite que la poste. Donc on a posté une lettre ici même, un mercredi. Et on avait la même lettre signée par tous les participants, nos amis allemands et nous. On a couru avec pendant 3 jours et on a donné la lettre à Madame Schemann, arrivée à Norwalde, avant que la poste ait pu livrer la sienne. Et le projet est parti de là, d'une rencontre avec nos amis allemands à Norwalde. On est parti de faire un projet fou et aujourd'hui, on aura rallié dans une semaine les 3 villes jumelées à Amilly.
Patrick Leclou, il a quand même la forme. Alors moi, je me demande quand même ce qu'il fait dans la vie.
Moi, je travaille à Hutchinson. Je fais une société de caoutchouc à Chalette-sur-Loing, tout près d'ici. Je suis technicien, je m'occupe des travaux d'aménagement du site.
Sportif ?
Je fais du sport assez souvent, pas mal de courses à pied, un peu de vélo. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. Pour moi, le sport est une hygiène de vie. Mon épouse fait du sport, mes enfants font du sport. Je pense que c'est très important pour être bien en sa peau.
Et donc, Patrick, c'est une façon de vivre l'Europe, c'est-à-dire grâce à ce type d'événement, l'Europe n'est pas une abstraction pour une population.
Loin de là, l'Europe, c'est très, très, très important. C'est une ouverture d'esprit, c'est une découverte de l'autre, une découverte des mentalités, une découverte de tout. Et c'est très, très riche, l'Europe. Les Européens sont superbes. Donc, moi, je souhaite à toutes et à tous de vivre l'Europe, la culture européenne, la gastronomie européenne, le sport,
les paysages,
tout est magique. Profitez-en et il faut vraiment qu'on le vive à fond. Et moi, je suis très, très pro-européen.
C'est superbe ce mot de la fin. Bon courage.
Merci.
Et puis, à bientôt. On reverra sans doute Patrick le jour de la fête de l'Europe. Voilà, en pleine forme, comme il est là.
J'espère qu'on sera aussi en forme. On arrivera le vendredi 1er, aux Tanneries, à 20h30. On sera là à 20h30, vendredi prochain. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une belle fête de l'Europe. Merci.
Les 1, 2 et 3 juillet prochains, eh bien, ça sera la fête de l'Europe ici à Amilly. Pour nous en parler, pour nous donner le programme, on a l'homme de la situation, il s'appelle Henrique Coelho et il est responsable événementiel ici à la municipalité. Salut Henrique.
Salut. Donc, je travaille à la mairie d'Amilly. Je travaille sur la fête de l'Europe depuis maintenant... Déjà novembre de l'année dernière, on commence assez tôt. Donc à chaque fois, on commence sur, évidemment, cibler le pays. Ce qui caractérise ce pays, ou cette région-là, en l'occurrence.
Donc, tu nous précises tout de suite, cibler le pays, c'est ?
Là, c'est la Catalogne, du coup.
Voilà.
À l'occasion des 20 ans de jumelage avec Vilanova del Camí.
D'accord.
Et donc voilà, moi, je me suis plus occupé de tout ce qui est programmation. Puisque tout simplement je sors d'un long séjour à Barcelone, du coup ça tombe bien, ma copine est une locale, donc j'y ai passé quelques mois quand même l'année dernière, en 2021, et je suis revenu au moment parfait.
Donc qu'est-ce que tu nous as rapporté dans ton panier événementiel ?
Alors tout d'abord, ouais, sur la proc catalane, on a Kerat Laoz, qui est notre artiste du vendredi soir aux Tanneries. C'est vraiment ce qui caractérise...
C'est la musique.
C'est ça, c'est une chanteuse. Et c'est ce qui caractérise le mieux, je dirais, la musique actuelle catalane. Donc c'est cette pop mélangée au flamenco et aux sonorités traditionnelles de chez eux, quoi. Donc semblable à Rosalía, grande artiste actuelle. Donc voilà.
Ah oui, donc tu es vraiment un pro de la musique espagnole.
Je dirais pas ça comme ça non plus, pas ce point-là, mais c'est vrai qu'en général, j'axe mes voyages et même mes passions dans la vie autour de la musique. Et donc voilà, après ça...
Est-ce qu'on te demandait que de la musique ? Il fallait aussi trouver des artistes plasticiens, des artistes de rue, raconte.
Alors oui, après, il fallait trouver des artistes pour les expositions. Des artistes sur les animations traditionnelles.
Alors on reste sur les expositions. Qui est-ce que tu nous fais venir ?
Là, cette année, on aura le photographe Israël Arrigno, qui est donc un photographe catalan, évidemment, qui prend des photos très artistiques, qui a vraiment sa patte à lui, avec beaucoup d'effets visuels et de déformations sur les photos, qui exposera d'ailleurs au bâtiment où on est actuellement, donc à la Maison Saint-Loup.
D'autres. Il y a d'autres artistes plasticiens ?
Non, sur les expositions, d'accord. Enfin dans le traditionnel catalan, c'est tout. Après, on aura l'exposition du photoclub et des villes jumelles, donc au rez-de-chaussée de ce bâtiment même d'ailleurs.
D'accord. C'est quoi exposition des villes jumelles ?
Donc c'est des portraits ou des paysages ou des photos prises lors des diverses manifestations. Donc il y aura des photos des précédentes fêtes de l'Europe, mais aussi des fêtes italiennes, allemandes et espagnoles.
D'accord. Et donc, spectacle de rue, il y a aussi ?
Ouais, en spectacle de rue, on a pris... J'ai un petit peu triché encore, je me suis orienté sur la musique, mais on a pris une banda typiquement catalane, ouais.
Ça, c'est magnifique.
Oui, charanga toca bémol, c'est leur petit nom.
Bon, dis donc. Et donc, tu disais que le concert, il se passe aux Tanneries ?
Oui, c'est ça, pour le vendredi soir. On a orienté une soirée autour du jumelage, du coup, et de la Catalogne. C'est ce qui est le plus fidèle, sur notre week-end, ouais.
D'accord. Et après, tout se passe ici en centre-ville. C'est un peu pour ça qu'on a la fontaine à l'arrière, et puis cette magnifique perspective avec le clocher, et puis juste à côté, vous avez donc cette grande halle contemporaine qui a été, en l'occurrence, pavoisée des différents drapeaux européens.
C'est ça. Cette année, on a gardé les formules qui marchent. Donc, on garde les concerts du soir sur la place de Nordval, juste derrière nous. Et sur la place de l'église, on a tout ce qui est autour des associations amiouises et de l'agglomération. Ouais.
Les concerts sur la place de Nordval, ça va donner quoi?
Alors, le samedi, on a une petite nouveauté. On aura un concert première partie et ensuite le concert tête d'affiche. Donc, on aura Elsa Mix de Manel en première partie, qui sont la bonne bande, quoi, qui viennent bouger, faire danser.
Ils viennent d'où?
Ils viennent de Sitges. C'est ceux qui connaissent la Catalogne connaissent forcément cette ville. C'est une ville en bord de mer.
Branchée.
On y trouve principalement de gros festivals autour du cinéma et de la science-fiction, avec les fameux défilés de personnes déguisées en zombies, par exemple.
Pourquoi tu nous as pas fait ça?
Ouais, Ami, je ne sais pas si on pourrait se permettre ça pour le moment. Peut-être plus tard.
Peut-être pas l'année où on reçoit le trophée de l'Europe, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, quoi d'autre alors après? Le dimanche, alors ça continue?
Sur le samedi, du coup, quand même. Alors, sur la tête d'affiche, on aura Ithaca Band, qui est vraiment le groupe phare actuel de la musique festive catalane, avec des musiciens qui ont tourné avec Manu Chao, par exemple. Ça, c'est un nom qui parle à tout le monde. C'est ça. Qui parle à tout le monde, ouais. Et du coup, sur le dimanche, on aura Every Night, qui, là, se rapproche un peu plus de mes goûts personnels, qui est un groupe avec l'esprit vraiment catalan, punk, le point levé, quoi, avec des textes sur la rébellion et la fraternité.
Ce qui est formidable, c'est que tes élus t'ont dit « Vas-y, Henrik, carte blanche ».
Ouais, c'est ça. À chaque
ça
fois,
fait
ouais.
Peur. Ça fait un petit peu. Ça fait plaisir.
C'est ça. Et puis, à force, on connaît les équipes, on connaît Monsieur le Maire et nos élus, donc on sait quoi leur présenter ou pas. Et donc là, ça a été quasiment un one shot où du premier coup, on était dans le juste surtout, et ça nous a pour tous semblait comme une évidence, quoi.
Après, derrière la musique, derrière la prestation d'un groupe, il y a aussi réussir à les tractations. C'est peut-être compliqué quand on parle à des gens qui se trouvent en Catalogne.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même un challenge.
C'est pas facile. Du coup, j'ai eu de la chance d'avoir un peu une partie de moi en Espagne, en Catalogne. Donc, ça m'a beaucoup aidé là sur cette fête de l'Europe. Sachant que j'ai travaillé en 2018 et 2019 sur les précédentes fêtes, où là, c'était déjà autre chose. La Slovénie, c'est pas pareil. Ouais, là, ça m'a semblé plus simple. Et donc, ouais, pour créer les liens, ça a été une petite mission, une petite épreuve. Mais on voit qu'aussi en Espagne, c'est aussi dans l'imaginaire collectif où les gens sont plus ouverts et c'est réel, quoi. C'est réel, on crée des liens plus facilement. Même par mail ou uniquement par téléphone, quoi.
Bah, évidemment, moi je suis une grosse gourmande, alors est-ce qu'on va manger catalan?
Alors ouais, ouais, quand même, c'est au moins l'essentiel. On oriente aussi notre fête sur la gastronomie. On aura plusieurs restaurateurs, dont deux catalans. Donc on pourra trouver des patatas bravas, par exemple. tous ces petits plats qu'on raffole, quoi. Et puis on en a un autre aussi qui vient du coin, qui est pas très loin, qui est à Blois, et qui proposera des plats, on va dire, espagnols en général, quoi.
Et on boit quoi quand on est là-bas? Et donc quand on sera à la fête de l'Europe?
Là-bas, on boit beaucoup d'alcool déjà, c'est sûr.
Il ne faudrait pas boire trop d'alcool non plus, hein.
Ouais, non, quand même pas. Il faut faire attention. Mais là-bas... Là-bas, ça boit beaucoup. Ils ont beaucoup d'alcool traditionnel, quoi, qu'on trouve que chez eux. Il y a le vermouth, par exemple, des choses du genre qu'on trouvera aussi sur la fête de l'Europe.
Bon. Bah, écoute, t'as quel âge, dis-moi, Henrik?
Moi, j'ai 23 ans. C'est mon premier vrai job. C'est mon premier vrai job.
Bravo, en tout cas, ça nous donne vraiment, vraiment envie. Bon, tu nous as pas ramené quelques petites perruches vertes? Non. Il ne faut pas trop, hein, de notre côté, ils nous bouffent nos moineaux. Nous étions entre Loire et Loin. Merci de nous avoir écoutés. C'était le magazine du Gâtinais sur C2L. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, de vous abonner à notre page Facebook Entre Loire et Loin, de retrouver toutes nos interviews en vidéo, commenter, liker, partager. Ce soir, c'est toujours Musicaire, hein, c'est la deuxième soirée de Musicaire, vous risquez de nous y croiser. On se donne rendez-vous samedi prochain à 10h sur C2L pour un nouveau numéro. Toute la semaine, c'est sur les réseaux que ça se passe. Merci à toute l'équipe, Sandrine, Anita, Patrice, JB, c'était Pascal Weber au micro et à la réal. Bonne semaine à toutes et à tous.
Escapar contigo, volver a aquella ciudad sin nada en los bolsillos.